plus pas. Salut. Et avant de le voir, on nous a sollicité pour en amont de l'inauguration du salon, faire un petit point explicatif, notamment par rapport à la communication qu'il y a pu y avoir ces derniers temps, et où le monde agricole, dans le cadre du salon, souhaite quand même communiquer en propre sur ses pratiques, avant que d'autres, ou laisser continuer d'autres à le faire sur ses pratiques. Le sujet aujourd'hui, c'est quoi ? Un point de départ, c'est au-delà du contexte climatologique qui est quand même sur le devant de la scène avec une pluie pas présente, le point de départ, c'est les autorisations d'irrigation qui sont à date aujourd'hui pas encore validées par les services de l'État. Suite à, vous avez pu entendre parler depuis 2 ans un recours juridique de FLU. Ça, c'est un des premiers éléments. Et le deuxième, il est lié plutôt à un contexte plus ponctuel, si encore on peut parler de sécheresse en mars, parce que la nature, des fois, elle peut quand même révéler des surprises, et les agriculteurs, ils en ont l'habitude. Mais malgré tout, on sent une tendance quand même de la part de l'administration à vouloir être très précautionneux dans comment gérer l'été à venir. Parce qu'effectivement, à date, les réserves sont plutôt proches, pour les réserves basses, de 50% de remplissage, un peu plus de 50%. Mais tous les lacs de haute montagne qui auront la fonte des neiges plus tardivement, voilà, ça, on sera à peine certainement à 50%. Les agriculteurs ici qu'on retrouve du coup dehors et qui vont communiquer sur leurs pratiques et leur métier, ces agriculteurs de la vallée de la Rosse, de la vallée de l'Adour, 65 et 32, puisqu'on réglementairement, si on pouvait grossir, ça part de Bagnères jusqu'à Aire-sur-Adour, donc c'est toutes les différentes vallées qui sont concernées par cette problématique et cette autorisation d'irriguer et cette ressource en eau que l'on a regardé passer en janvier et qui n'a pas rempli les lacs présents aujourd'hui ou que pour moitié. 2022, bon voilà, on ne va pas le rappeler, scénario qui a été ce qu'il est, mais qui économiquement, pour le coup, a marqué l'exploitation, parce que les pertes de production sont quand même conséquentes. Les frais ont été engagés comme si les récoltes allaient être habituelles, et pour le coup, l'environnement de communication qui est fait par l'administration, la société qui se pose des questions aussi sur la ressource que l'on aura pour 2023, lui-même peut-être demain, comment on devra l'utiliser, interpelle, c'est pour ça que du coup on a des élus qui sont pour certains législateurs, on souhaite aujourd'hui au travers du salon les faire s'engager un peu plus fort sur le sujet, parce que les contraintes administratives ne sont pas celles que ne vont pas au même rythme que ne va la nature, même si notre territoire, et là c'est la difficulté de pas partout engager dans une réflexion autour de l'eau avec des projets de territoire, dans cette même zone que je décrivais avec plusieurs vallées, il n'y a que la vallée de l'Adour, alors qu'il y aurait nécessité à engager une réflexion au-delà, et notamment dans la vallée de la Rosse, parce qu'on voit bien que des ouvrages qui sont déjà présents peuvent à terme ne pas suffire. Parce que 2022, c'était un peu une simulation de ce que l'on peut avoir en termes de température et de pluviométrie, des scénarios que disent les météorologues, de ce que l'on pourrait retrouver en 2050. Bon, on verra, on peut acter aujourd'hui que c'est ce que l'on nous prédit, on verra en 2050 avec vous, on refera un point de presse s'il faut pour dire si vous avez prédit les bonnes choses.
Moi, c'est à Bruxelles.
Voilà, c'est ça. Donc du coup, quand on a déjà ces élus qui, je disais, certains sont législateurs, aujourd'hui, créer de la ressource en eau, c'est très long, c'est très encadré, soit par des directives européennes, soit par des mesures franco-françaises. Et tout ça, ça fait prendre du temps. L'agriculture entend bien ne pas mobiliser le sujet de l'eau. Nos réflexions vont y compris dans celle de la société aussi, dans l'usage de cette eau et de la multifonctionnalité de l'eau. Et c'est vraiment l'orientation d'un projet de territoire tel qu'il est construit. Mais malgré tout, on ne peut pas laisser revivre économiquement dans notre territoire une deuxième année comme 2022. Il ne faut pas que le salon, c'est très souvent on parle de vitrine. Moi, je dirais c'est plutôt une photo, parce qu'on retrouve une vitrine, c'est figé, c'est pas à date, c'est quelque chose des fois qui ne correspond pas à la réalité. Ce que l'on a aujourd'hui au salon de Tarbes et ce que viennent voir quasiment 60 000 visiteurs, ils voient ce qu'ils ont à côté de chez eux. Il ne faudrait pas que ça devienne une vitrine par manque d'ambition politique, économique, parce que ça touchera l'environnement des territoires et ça touchera les emplois de nos territoires. Dans les personnes que l'on retrouve dehors devant l'entrée, il n'y a pas que des agriculteurs, il y a des entreprises, et les entreprises que l'on retrouve dans le parc d'exposition, qui génèrent de l'économie et de l'emploi. Eux aussi se sentent très concernés par les problématiques des agriculteurs, parce que si de toute manière il n'y a pas de revenus dans les cours de ferme, ils n'auront pas eux aussi d'activité qui voilà, c'est une chaîne. Donc voilà pourquoi cette interpellation. Vous avez retrouvé dans les petits dossiers qu'on vous a remis quelques affiches qui seront affichées pour le coup et interpeller le grand public. Parce que très souvent on a des lacs, on en a trois sur le département qui ont été faits pour certaines depuis quasiment 30 ans, 40 ans. Lorsqu'on tape le nom du lac, très souvent, on arrive avant de son premier usage qui était la création pour de l'agriculture, c'est du tourisme, c'est de la biodiversité, c'est référencé. Lorsqu'on tape sur Google le nom des trois lacs, c'est les premières références qui sortent pour ces ouvrages, c'est un guide touristique, c'est un guide naturel. Donc c'est bien là montrer aussi la complémentarité entre agriculture, présence dans les territoires, environnement. Parce que c'est une complémentarité lorsqu'on crée un ouvrage et que voilà. Donc remettre en avant ça aussi, les agriculteurs là sont voisins de ces ouvrages, donc les gens qui vont s'y promener, qui vont à la pêche peuvent croiser ces mêmes agriculteurs qui contribuent à la participation au financement de ces ouvrages encore actuellement dans son fonctionnement, puisque le fonctionnement est payé par les utilisateurs. Mais voilà moi un peu pour les grandes lignes de ce que j'avais à dire. Tu retrouves le lac du Gabas, puis l'Arieux, le lac de l'Arrée d'Arrée. Enfin, on voit tous ces ouvrages, ils ont des dispositifs de sport, des chemins de promenade, classé Natura 2000 comme puits d'Arieux. Voilà, enfin, c'est quand même la démonstration.
Si ça fait autre chose. Avec le Covid, ils sont développés au niveau des simplement des gens qui veulent se mettre en vert au moment du Covid, des restrictions de Covid, et aujourd'hui qui continuent à se développer avec des animations autour de ces lacs. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que la problématique, elle est simple, c'est qu'on a un État qui, aujourd'hui, a de grosses inquiétudes par rapport à l'eau potable. Et comme nous avons des inquiétudes pour l'eau, pour l'irrigation. Le problème, c'est que depuis deux ou trois générations de responsables professionnels sur ce département, on défend la mise en place de retenue et de stockage d'eau. Si on nous avait écouté nos prédécesseurs, si on avait réalisé deux ou trois retenues collinaires majeures sur ce département, on n'en serait pas là. Et ça vaut pour tout le bassin du Sud-Ouest. Alors, il y a eu le Grenelle de l'irrigation au niveau du ministère de l'Agriculture, où on parlait retenue collinaire, si, on parlait retenue et puis eau potable. Et aujourd'hui, vu l'inquiétude, on ne parle plus de retenue, on parle que de l'eau potable. C'est-à-dire que la variable d'ajustement aujourd'hui du gouvernement en matière d'eau potable, et dans la réunion des préfets de bassin qui a eu lieu la semaine dernière, ça a été dit, c'est que la variable d'ajustement pour ces gens-là, pour le gouvernement, c'est les irrigants. Donc c'est les irrigants qui vont devoir diminuer leur volume pour la salubrité, en premier, parce que c'est la salubrité qui consomme le plus d'eau dans les cours d'eau, et l'eau potable. On en est tout à fait d'accord. Mais la problématique, c'est qu'on ne voudrait pas être le don de la farce. Alors, en ayant annoncé toutes ces problématiques, en demandant des réserves, et aujourd'hui, avoir des restrictions, parce qu'à cause de l'incompétence, 2, 3, 4 ou 5 générations de gouvernants qui n'ont jamais voulu rien entendre et qui ont multiplié les contraintes environnementales pour la création de ces ouvrages. Et bien sûr, derrière, qui ont favorisé l'émergence d'associations environnementales qui attaquent tous les dossiers, tous les projets. Le problème, c'est que nous, on est maintenant au bout du rouleau. Une année comme 2022, ça a été une problématique pour tous les agriculteurs de ce département, irrigant comme non irrigant. Si on continue dans cet aspect-là, c'est-à-dire pas de retenue, mais des restrictions, ça ne pourra pas passer. Et ce que je rajouterais, c'est que les restrictions, en fait, elles sont insidieuses. On ne met pas des limitations de volume. On augmente artificiellement le coût de l'irrigation pour le rendre économiquement, pour les agriculteurs, pas supportable. C'est tordu en plus. Mais nous avons là une problématique, c'est que nous tous ici, qui sommes responsables, comme j'ai dit tout à l'heure, le processeur, le problème était annoncé, et le problème, il arrive. Et nous, on ne voudrait pas que, c'est pour ça qu'on veut alerter aujourd'hui, on profite du salon pour cela, mais les réserves, quelles que soient les réserves, sont indispensables pour la salubrité, pour l'eau potable et pour l'irrigation. Je rappelle la dernière chose, l'irrigation dans tous ces volumes d'eau stockés et qui passent, c'est 40% des volumes. Et des fois, comme dans les cultivations, c'est 60% des dépenses de fonctionnement qui sont assurés par les irrigants. Alors, nos responsabilités, on les a toujours prises. Quand il fallait arrêter en période de crise, on a suivi les restrictions, et ainsi de suite. Mais là, aujourd'hui, on est au bout. On ne va pas diminuer encore nos volumes d'eau qui sont immémoriaux aujourd'hui, parce qu'avant, l'irrigation par aspersion, il y avait l'irrigation. On irrigue depuis des milliers d'années dans ce département. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on devrait changer cela, parce que dû à l'incompétence ou le manque de décision de nos élus depuis 30 ans. Voilà.
Peut-être les verrets bleus, parce qu'on nous voit avec des verrets bleus, nous on comprend, mais peut-être que.
Moi je ne l'ai pas, je ne suis pas irrigable.
Donc c'est normal. Pourquoi les verrets bleus? Les verrets bleus parce que on avait créé une association irrigante en 2003 et on avait décidé par la suite pour faire une symbolique que tous les agriculteurs aient un verret bleu. Donc aujourd'hui on a quelques problèmes logistiques, tous les ont pas encore, mais on est en train d'y travailler. Et on a fait quelques manifestations, on sait que, vous voyez, on peut se reconnaître à la vallée de la Roure, même quand on est avec d'autres départements, par nos verrets bleus. Donc, moi, je voudrais appuyer sur deux points qu'ils ont pu citer. Alors, un, le problème de l'autorisation d'irriguer. Aujourd'hui, on n'a pas encore une autorisation d'irriguer officielle. Mais... ce qui est sûr, c'est que les agriculteurs, ils sont obligés aujourd'hui de choisir les cultures qu'ils vont faire et d'y mettre de l'argent dedans. Et aujourd'hui, que ce soit n'importe quelle culture, ça coûte relativement cher. Il y a, entre les semences, l'engrais, etc., il y a plus de 1 000 euros de charges. Et aujourd'hui, on m'a demandé à des agriculteurs d'engager 1 000 euros de charges sans savoir si demain, ils pourront irriguer leur culture et récupérer leur argent. Donc ça, c'est un peu gênant de la part de l'État qu'ils ne soient pas capables de les interpeller sur ce problème. Mais ils ne sont pas capables, apparemment, de le comprendre. La deuxième chose, je parlerai, on vous parle qu'on veut stocker de l'eau. Et aujourd'hui, on entend dans les villes, on va dire, pas dans les campagnes, on entend que les agriculteurs consomment 80% de l'eau. Ça, c'est dans ces termes-là. Aujourd'hui, moi, ce que je veux dire, c'est que dans la vallée de la Doubs, moi, je parle uniquement pour la vallée de la Doubs, c'est le secteur dont a parlé Lilian. Il pleut annuellement 2,5 milliards de mètres cubes. Et les agriculteurs, ils en consomment 70 millions de mètres cubes. 70 millions. Ça, je vous parle de la Rosse, la Doubs, et la partie Louette avec le lac d'Esconnet. Enfin, le lac du Louette, ça s'appelle. Donc, cette partie-là, on en consomme 70 millions. Et il pleut 2,5 milliards de mètres cubes. Donc, c'est epsilon, ce que les agriculteurs peuvent consommer. Ensuite, donc, nous, la création de nouvelles ressources et de nouveaux stockages nous paraît indispensable. Sur un secteur comme ça, il y en aura peut-être besoin dans les années en 2050 avec ce qu'on peut entendre du réchauffement climatique, peut-être une centaine de millions. Et aujourd'hui, on en stocke epsilon, 50 millions. Donc, il faut se dépêcher. Et il y a des personnes qui m'ont posé la question de savoir lesquels on fait. Moi, j'ai dit qu'il faut tout faire. Et lesquels projets on fait, il faut tous les faire parce que c'est urgent. Parce que quand on voit qu'on n'a pas été capable de l'axe principal de la vallée de la Loupe de faire des stockages depuis 1830 que date le lac bleu, il faut à un moment donné, on se pose la question de prévoir déjà pour 2050 des pas du déficit aujourd'hui. Donc il faut travailler là-dessus. Donc voilà l'information qu'on essaye aussi par des affiches et par de l'information publique, parce que c'est pas notre métier de faire de l'information publique. On n'a pas le temps, les associations environnementales ont beaucoup plus de temps que nous et beaucoup plus de moyens pour faire de la désinformation des fois. Et nous, l'information, elle est là, elle est simple. Donc on a fait une petite affiche que vous avez dans vos pochettes, où c'est qu'on dit que l'agriculture, elle utilise 3,5% de l'eau de pluie. Voilà. Donc une autre anecdote, il a parlé il y a des différentes crues qu'il peut y avoir, parce qu'on sait que maintenant avec le réchauffement climatique il va y avoir des grandes périodes de sécheresse et des grandes périodes de crues. On a des chiffres officiels de l'Adriat qui ont mesuré le débit de l'Adour à Aire-sur-Adour. Il y a eu une crue aux alentours du 18 janvier. En 3 jours, il est passé 150 millions de mètres cubes. Et nous, annuellement, tous les bassins qui sont au-dessus de l'Aire, on en consomme 70 millions. Et quand je vous dis 70 millions, c'est la nappe plus la rivière. Donc la rivière, elle en consomme qu'environ 40 millions. Donc sur les 150 millions, là, il était très facile de faire des stockages. Pour donner une image. Voilà. Donc,
Après, donc, c'était rappelé aussi par l'écolo, et pour expliquer nos slogans, l'eau qui passe trop vite l'hiver, faut la retenir parce que, en fait, ce que prévoient les climatologues et tout ça, c'est pas moins de pluie. C'est une pluie qui va tomber de façon différente, c'est-à-dire anachronique. On va avoir la même quantité de pluie, sauf qu'elle va tomber, au lieu de tomber 10 fois dans l'année, elle va peut-être tomber 4 fois. Donc si elle part inexorablement à la mer, et là c'est des quantités, comme l'a rappelé Bruno, qui pourraient en 3 jours, c'est un stock qui passe pendant 3 jours, on pourrait en tous les bassins. On n'a pas de problème avec l'eau. On ne sait pas la gérer, on ne sait pas la retenir, on sait la regarder. Passer jusqu'à la mer, et on est juste ça va plus. Si on ne la stocke pas, on casse aussi un rythme climatique qui fait que nous, on la repompe dans les nappes, dans les rivières, on la remet dans nos sols, ça évapotranspire, ça crée de l'humidité, des nuages, de la pluie. Si elle part directement à la mer, tout ce cycle est cassé aussi. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que cette eau, il faut la garder, la réutiliser, et pas simplement se contenter de dire en consommer moins. Non, on n'en aura pas moins, on en a autant. Mais il va falloir mieux la gérer et la garder.
Donc, de toute manière, c'est mettre la juste dose au bon moment. Faire le même niveau de production économique dans les territoires, ça sera le faire avec de la recherche variétale, de la technologie, c'est tout ce qui tournera autour de comment on emportera cette eau-là aussi. Donc, ça sera peut-être faire avec moins, mais tout en produisant autant. Enfin, l'agriculture devra faire aussi des sources d'économie, très certainement, ou le valoriser, parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas la moitié de la surface du territoire qui est irriguée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les terres qui ne sont pas irriguées, qui avaient de la chance dans certains territoires de bénéficier peut-être d'un peu plus de pluie, qui y aura moins. Et comment on arrive à équiper ces zones-là aussi avec de l'irrigation pour que ces zones maintenir une production dans ces territoires-là. Donc peut-être le niveau d'eau en consommation, en volume, on restera à un niveau comme ça, mais on augmentera la superficie sur le territoire de surface irriguée pour maintenir l'économie dans ces territoires. Parce que des cultures, même si la recherche... on est sur des cycles longs, quoi. Sortir une variété d'une espèce, c'est 10 ans de recherche qu'il faut pour arriver à faire quelque chose. Donc c'est des cycles très longs. C'est dans les tuyaux, et malgré tout, il faudra toujours un minimum d'eau pour faire vivre ces plantes. C'est comme nous humains, on a besoin de minimum d'eau et de manger aussi.
Voilà. Oui, de production, là où on parle de souveraineté alimentaire, voilà. Souveraineté alimentaire,
c'est... On l'importe aujourd'hui. On importe quasi la moitié de nos arbres.
Le lac d'Arrédalie a été construit en 1996. je pense que s'il n'y avait pas eu la grève d'arrêt, il y aurait une toute autre agriculture dans la vallée de la Rousse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moyenne d'exploitation de la vallée, c'est 60 hectares. Ça a sauvé énormément d'exploitations, nous, la première. En parlant de touristique, tourisme, tout ça, avant, j'étais petit, je me souviens quand même comment était la vallée. C'était une vallée, il y avait peut-être des serpents, n'importe quoi. Depuis qu'il y a le lac d'arrêt, il y a énormément d'eau qui sont revenus, il y a beaucoup de faune, il y a beaucoup de flore. C'était énormément de tourisme. Énormément de tourisme. C'est-à-dire que je pense que les 500 voitures par week-end, par semaine, peut-être même voir les 800 ou 1000 voitures qui viennent voir le lac d'arrêt, je pense qu'elles y sont. C'est une porte de Tarbes, il y a beaucoup de citadins de gens de la ville qui viennent dans ce lac. Certes, ça a été fait quand il fallait, il n'y avait pas d'opposition, tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est institutionnel. Et plus on créera de lac, plus on sauvera l'exploitation.
Julien Larrand, donc, je suis le président des irrigants de la vallée de la Rosse et de l'Estème. Non, très bien les interventions que vous avez pu faire. Je ne vais pas compléter là-dessus, c'était très très bien. Juste un petit message que j'ai préparé hier avec mes collègues irrigants. Alors c'est un petit message de détresse, d'inquiétude et à la fois de colère. Que veut-on ? Que veut la société ? Avoir l'origine de nos vêtements, quand on sait que nous étions un fleuron dans l'industrie du textile, je m'inquiète. Je m'inquiète également quand je vois comment la France a géré sa production électrique. Travailler la terre, élever nos bêtes, ne va plus être notre seul métier. Il nous va falloir communiquer et avoir cela dans la palette des compétences qui nous sont les nôtres. Nous sommes de moins en moins dans la communication. Dans la profession. De ce fait, notre travail, notre vie ne sont pas compris par la majorité de la société. Il est bien que l'on soit ici devant les élus qui font partie de cette société. Mais je crains que cela ne suffira pas. Il nous faut relancer les élus qui détiennent la meilleure place pour défendre notre cause. Le monde de l'OH est régi par un millefeuille d'administration et d'organismes. Trop de monde pour prendre des décisions claires et volontaristes en faveur de nos retenues. Je suis d'une vallée, la Rosse, qui possède l'un des plus grands lacs du système d'eau, le lac de l'Arrêt d'Arrêt. Depuis chez nous, on se demande bien comment il peut contenter tous les besoins actuels. Il en faudrait un autre identique de 10 millions de mètres cubes. Alors on réfléchit comment à gérer les prochaines crises. Fixer des seuils, interdiction, encore un truc qui va nous diviser à tous. Lorsqu'on traverse la France, on comprend les régions qui ont la richesse de pouvoir s'en sortir. Elles ont l'eau. Pour les autres, petit à petit, les friches, les bois reviendront. Si le climat change aussi vite qu'annoncé, alors plus personne ne traversera nos belles parcelles. Plus je réfléchis à la tournure de ce discours, plus je me sens résigné. Après les résignations, l'étape qui suit, c'est la colère. Nos aînés ont réussi à faire des prouesses en leur temps. Certains d'entre vous connaissent le Cap de Long, avec une digue voûte de 100 mètres de haut et un volume de 67 millions de mètres cubes. S'en suit plus bas le canal de la Neste, long de 32 km, qui assure la distribution d'une quinzaine de cours d'eau. Ils ont fait ça de leurs propres mains, de leurs seules mains. Nous n'arrivons seulement pas à définir la création. Nous sommes ridicules. C'est une honte. À l'échelle d'un canton, des actions seront menées prochainement, mais il n'est plus temps à la diplomatie. Merci.